Mes chers amis, aujourd'hui 15 mars, je vais vous parler de sainte Louise de Marillac. Avant tout, je dois vous dire que la vie de sainte Louise de Marillac fut extrêmement complexe. Louise de Marillac naquit le 12 août 1591 à Ferrières-en-Brie, où elle fut baptisée avant que son père ne s'installât à Paris. Louis, son père, qui vécut de 1556 à 1604, était veuf depuis 2 ans. Nous ne connaissons pas la mère de Louise. Son père épousera 3 ans plus tard une veuve, Antoinette Camus, mère de 3 enfants. Louise était également la nièce du chancelier Michel de Marillac et du maréchal Louis de Marillac, qui vécut de 1572 à 1632. Louise était la fille illégitime d'un Louis de Marillac, chevalier, seigneur de Ferrières-en-Brie et de Villiers-Adam. Cependant, dans un acte notarié, passé 3 jours après la naissance de Louise, Louis Ier de Marillac, qui vécut de 1556 à 1604, la nomma sa fille naturelle et lui octroya une rente. Nous pouvons donc dire que Louise ne connut jamais sa mère, mais elle fut reconnue et élevée par Louis de Marillac, qui, lorsqu'il se remaria avec Antoinette le Camus, le 12 janvier 1595, plaça sa fille naturelle en pension chez les religieuses dominicaines de Poissy, au monastère royal de Poissy, où Louis avait une tante, mère Louise de Marillac. Quelques années plus tard, après la mort de son père Louis de Marillac, survenu le 25 juillet 1604, Louise fut placée par son oncle et tuteur Michel de Marillac, qui vécut de 1560 à 1632, dans un foyer parisien pour jeunes filles nobles. Elle y apprit à tenir une maison et bénéficia du climat de la réforme catholique qui embrasait alors le Paris dévot. Louise fréquenta les capucines du faubourg Saint-Honoré, les filles de la Croix, et, pensant devenir l'une d'elles, fit le vœu de servir Dieu et son prochain. Du fait de sa naissance illégitime, hors mariage, Louise était rejetée par sa famille. C'est la raison pour laquelle elle fut placée dans des institutions religieuses. Devenue adolescente, puis jeune adulte, habitée par l'anxiété et la culpabilité, Louise de Marillac n'avait qu'un désir, s'enfermer dans un cloître loin du monde. Mais son tuteur refusa et maria Louise le 5 février 1613 à Antoine le Gras, secrétaire de la reine de France. Antoine le Gras, qui vécut de 1577 à 1625, était issu d'une vieille famille de Montferrand. Comme il n'était pas noble, son épouse s'appellera Mademoiselle, titre alors réservé aux épouses et aux filles d'écuyers, c'est-à-dire de nobles non titrés. De ce mariage naîtra un fils prématuré le 18 octobre 1613, fils que Louise élèvera à partir de 1619 avec les 7 enfants d'une de ses cousines défuntes. En 1622, Antoine le Gras tomba gravement malade de la tuberculose. La découverte de l'amour humain et de la maternité avait apaisé les angoisses de Louise, mais la maladie de son mari raviva sa détresse. Elle pensait que Dieu la punissait pour n'avoir pas répondu à son appel à la vie religieuse. De nouveau, la nuit de son âme et son état dépressif la plongèrent dans l'angoisse. Heureusement, le jour de la Pentecôte 1623, une grâce de lumière lui fit percevoir un avenir dans une communauté où elle pourrait se consacrer à Dieu. Elle comprit aussi qu'elle devait rester près de son mari malade et de son fils. Le 21 décembre 1625, Antoine le Gras s'éteignait, laissant Louise et son jeune fils dans une certaine précarité économique. Louise plaça son fils Michel en pension à Saint-Nicolas du Chardonnay et accepta la direction spirituelle de Saint-Vincent-de-Paul, qui découvrit peu à peu la richesse cachée de cette personnalité angoissée. Il conduisit Louise vers une véritable relation avec Dieu et il l'orienta vers les pauvres à travers l'œuvre des confréries de la charité. À partir de 1628, Louise se consacra totalement aux œuvres de Vincent-de-Paul, qui la chargea de surveiller les charités, de visiter celles des provinces et de modifier leurs règlements. C'est alors qu'elle fit comprendre à Vincent Paul que les dames associées ne pouvaient rendre aux malades les services pénibles qu'exigeaient leurs services et qu'il fallait songer à réunir des personnes aptes à se dévouer entièrement à l'œuvre sans autre devoir au dehors. Les filles de la charité naissaient. Dès lors, Louise se décentra d'elle-même. Elle découvrit qu'il y avait des plus pauvres qu'elle sur le plan psychologique. Via la personne du Christ, elle découvrit un Dieu plein d'amour et si proche des hommes. Elle comprit que Dieu avait voulu faire connaître son amour pour tous les hommes en envoyant son Fils sur la terre. Elle admirait la disponibilité et l'humilité de la Vierge Marie qui avait donné au Fils de Dieu son humanité. Et un jour, elle réalisa que Dieu avait besoin des hommes et des femmes pour achever son œuvre. Avec Vincent Paul, elle fonda la Compagnie des Filles de la Charité, ou Sœurs de Saint Vincent Paul, œuvre proposée aux paysannes, femmes méprisées par la société dirigeante d'alors, pour qu'elles puissent vivre une vie consacrée, sans cloître, au service des rejetés de la société. Louise de Marillac avait compris que seul l'amour fort de Dieu permettait d'avoir un amour compatissant et doux envers les pauvres, un amour plein de tendresse et de respect. Louise considéra alors le service envers les pauvres comme la suite logique de l'œuvre rédemptrice de Jésus. Mais coopérer avec Dieu au salut du monde est une grande responsabilité qui doit être soutenue spirituellement. C'est pourquoi l'Eucharistie devint la source de vie de toutes les servantes des pauvres, car l'Eucharistie est le moyen que Jésus trouva pour demeurer présent à tous les hommes et leur partager son amour. La communion devint un moment essentiel de la vie de Louise qui, peu à peu, découvrit la miséricorde de Dieu, la miséricorde qui pardonne. Louise avait enfin compris que seul l'amour de Dieu et du prochain pouvait guider sa vie. Elle pouvait maintenant aller sereinement à la rencontre de son Seigneur. Louise mourut le 15 mars 1660, entourée de son fils, de sa belle-fille et de sa petite-fille, et de nombreuses sœurs de la charité. Elle fut béatifiée le 9 mai 1920 par le pape Benoît XV et canonisée par le pape Pie XI le 11 mars 1934. En 1960, Jean XXIII la proclama patronne de tous ceux qui s'adonnent aux œuvres sociales chrétiennes. Vous voulez certainement maintenant savoir davantage sur la famille, la vie et la vocation de Sainte Louise de Marillac. Son oncle, Michel de Marillac, ancien ligueur, c'est-à-dire ayant appartenu à la Sainte Ligue, parti de catholiques ayant pour but la défense de la religion catholique contre le protestantisme, était devenu maître des requêtes au Parlement de Paris. Il avait pris une part très active à la fondation du Carmel réformé en France et fréquentait assidûment le cercle de Madame Macary, où il rencontrait Pierre de Bérulle, qui vécut de 1575 à 1629. Louise fut d'abord accompagnée dans son cheminement spirituel par un cousin, Jean-Pierre Camus, évêque de Belley, neveu d'Antoinette Camus, et amie de Saint-François de Sales. Puis ce fut Vincent Paul qui conduisit Louise vers tous les exclus de son temps. Ainsi, Louise de Marillac créa des petites écoles pour les fillettes pauvres. Elle organisa l'accueil et l'éducation des enfants trouvés. Elle développa les visites à domicile pour les malades pauvres et elle envoya même des sœurs auprès des galériens. C'est dans une lettre du 6 mai 1629 que Saint Vincent de Paul en fit solennellement sa chargée de mission auprès des Dames de la Charité. Le 5 février 1630, Louise de Marillac assista à la messe. En recevant la communion, elle fit une expérience mystique très rare qu'elle relata plus tard. « Il me sembla que notre Seigneur me donnait pensée de le recevoir comme l'époux de mon âme. » Le 19 février 1630, Monsieur Vincent lui envoya Marguerite Nazot, une jeune vachère du village de Suresnes, qui avait appris à lire pour instruire la jeunesse des environs et qui s'offrait pour le service des pauvres. Ayant soigné des malades de la peste, Marguerite Nazot mourut le 24 février 1633, mais déjà d'autres paysannes prenaient la relève. Le 29 novembre 1633, avec l'accord de M. Vincent, Louise les réunit sous son toit pour les former. Ce fut le début de la Compagnie des Filles de la Charité. Le 25 mars 1642, Louise et quatre des premières sœurs firent le vœu de s'offrir totalement au service du Christ en la personne des pauvres et des plus démunis, tellement nombreux parmi les victimes de la guerre de 30 ans et de la Fronde. Dès lors, plus rien n'arrêta cette nouvelle sœur non cloîtrée, qui n'avait pour seul voile que la sainte modestie, pour monastère une maison de malades, pour cellule une chambre de louage, pour cloître les rues de la ville ou les salles des hôpitaux, et pour devise, la charité de Jésus crucifié nous presse. Peu à peu, Mademoiselle Legras ouvrit de nouvelles communautés. Elle installait elle-même des religieuses partout où le besoin s'en faisait sentir. Femmes, mères, enseignantes, infirmières, assistantes sociales et fondatrices religieuses, elle peut être considérée aujourd'hui comme le modèle de toutes les femmes.